vos prénoms?
Louane, Maëlys.
D'accord, Louane, Maëlys, donc. Quel est le titre de la poésie?
Grandir, c'est toute une histoire.
Ok, ok. Et en duo? Alors, on vous écoute?
Maëlys et moi, on a un point commun, un truc simple mais important. On aime les enfants, depuis les bébés tout petits jusqu'aux ados un peu plus perdus.
Les bébés, ça commence par un cri minuscule, mais qui veut tout dire « je suis là ».
Ils voient le monde flou au début, puis chaque semaine, leurs yeux découvrent un peu plus de couleurs.
À 6 mois, une petite dent de lait apparaît comme une étoile blanche dans un sourire.
Ils ne parlent pas encore, alors ils pleurent pour dire « j'ai faim, je suis fatiguée, j'ai mal, j'ai besoin d'un câlin ».
Vers 1 an, après avoir exploré le monde à 4 pattes, ils se lèvent, ils tremblent, ils font leurs premiers pas, on dirait qu'ils apprennent à voler, mais avec les pieds.
Puis vient l'enfance, depuis de 3 à 11 ans, les dents tombent comme des petits souvenirs.
On va à l'école, on apprend à lire, à écrire, à compter, on découvre des mots, des histoires, des rêves.
Et puis arrive l'adolescence.
Le collège, puis le lycée ou l'apprentissage.
On change, notre corps change, nos humeurs aussi.
On peut passer de la joie à la colère ou à la tristesse pour presque rien.
On se sent parfois aigri, stressé par les devoirs, par l'avenir, par le dimanche soir qui annonce déjà le lundi.
Certains ont peur d'aller en cours, d'autres ont peur de parler, surtout quand le cœur commence à aimer quelqu'un sans oser le dire.
Mais à l'école, on n'est pas seul. Il y a les amis, les discussions à la récré, les fous rires en classe, les conseils qu'on se donne, comme des petits secrets précieux.
Et puis, on adore manger, ça aussi ça rassemble.
Plus tard, on devient adulte.
On peut travailler avec des enfants, dans une maternité, dans une crèche, une école maternelle, ou faire des animations pour les petits et les ados.
Souvent, on rêve de devenir parent, de fonder une famille, même si tout ne se passe pas toujours comme on l'avait imaginé.
Mais il faut croire à un bel avenir.
Parce que grandir, ce n'est juste pas changer d'âge, c'est apprendre à aimer, à tomber, à se relever et à continuer d'avancer.
Bravo les filles.
Bravo, bravo. Et en plus, je pense que ce genre de phrases, de paroles résonnent en vous peut-être encore plus.
Oui.
Parce que vous avez vécu tout ça.
Oui.
Parce que être en classe Ulysse, par exemple, c'est encore plus de travail.
Et en fait, avant les vacances, j'avais vu avec toutes les deux, nous avons travaillé pour mettre des mots sur ce qu'elles ressentaient, sur l'enfance, l'adolescence. Et on a eu l'idée de mettre tous ces mots en phrase et d'en créer un poème.
D'accord. Vous pouvez être fiers de vous.
Merci.
Votre prestation aujourd'hui, vous pouvez vraiment être fiers de vous, vraiment.
Avec Aurélien Boucher. Non, là, on ne va pas parler d'archéologie. On va parler de poésie. Alors Aurélien, vous êtes amoureux aussi des vieilles pierres et des vieilles lettres, des vieux courriers, des vieilles poésies.
Oui, complètement. Oui, j'ai un baccalauréat littéraire, donc forcément, c'est des choses qui me passionnent. Et donc, oui, de la poésie, j'en mange depuis mes très jeunes années.
C'est qui le poète que vous avez choisi aujourd'hui?
Arthur Rimbaud.
Ah, mais ça nous manquait. Hein. On a eu Baudelaire, on a eu Victor Hugo, on a eu Chédid, on a eu Saint-Exupéry. Et on n'a pas eu de Arthur Rimbaud.
Voilà, ça tombe bien.
Et le nom de la poésie?
Alors, Le bal des pendus.
D'accord, donc c'est une poésie en plus qui n'est pas très très connue.
Effectivement,
hein.
Oui, qui est plutôt longue et qui a trait, alors sans spoiler, effectivement, ça parle un petit peu de la marionnette. Voilà, avec Charleville-Mézières, donc on n'est pas très loin.
Et oui, oui. D'ailleurs, il y a la maison d'Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières.
Oui.
Tu vois, comme quoi je sors de mon...
Tu changes, hein. Tu sais, tu changes.
Je grandis.
Tu sors de... Elle connaît que Charles et Nice, hein. Le reste, rien.
Voilà, Charleville-Mézières, j'ai vu la maison d'Arthur Rimbaud. Bon, on vous écoute.
C'est parti. Bal des pendus, Arthur Rimbaud. Au gibet noir, manchot aimable, dansent les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Messire Belzébuth tire par la cravate ses petits pantins noirs grimaçants sur le ciel. Et leur claquant au front un revers de savate les fait danser au son d'un vieux Noël. et les pantins choqués enlacent leurs bras grêles comme des orgues noires, les poitrines à jour, que seraient autrefois les jantes damoiselles, se heurtent longuement dans un hideux amour. Hurrah, les gais danseurs qui n'avaient plus de panse. On peut cabrioler, les tréteaux sont si longs. Hop, qu'on ne sache plus si c'est bataille ou danse. Belzébuth enragé racle ses violons. Oh, dur talon, jamais on n'use sa sandale. Presque tous ont quitté la chemise de peau, le reste est peu gênant et se voit sans scandale. Sur les crânes, la neige applique un blanc chapeau. Le corbeau fait panache à ses têtes fêlées, un morceau de chair tremble à leur maigre menton. On dirait, tournoyant dans les sombres mêlées, des preux, raides, heurtant armure de carton. Hurrah, la bise siffle au grand bal des squelettes. Le gibet noir mugit comme un orgue de fer. Les loups vont répondant des forêts violettes. À l'horizon, le ciel est d'un rouge d'enfer. Holà, secouez-moi ces capitans funèbres qui défilent, sournois, de leurs gros doigts cassés. Un chapelet d'amour sur leurs pâles vertèbres. Ce n'est pas un moustier ici, les trépassés. Oh, voilà qu'au milieu de la danse macabre, bondit dans le ciel rouge un grand squelette fou, emporté par l'élan comme un cheval se cabre. Et, se sentant encore la corde raide au cou, crispe ses petits doigts sur son fémur qui craque, avec des cris pareils à des ricanements, et comme un baladin rentre dans la baraque, rebondit dans le bal au chant des ossements. Au gibet noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin.
Merci Aurélien. Alors Aurélien, vous n'êtes pas professeur au Collège Notre-Dame, vous êtes historien, conférencier, guide, comme on l'a dit tout à l'heure, amoureux de tout ce qui est la vieille pierre, l'architecture. Vous avez prouvé aussi que vous êtes amoureux aussi des poésies. Arthur Rimbaud, on reconnaît bien le style hein, vraiment d'Arthur Rimbaud, c'est de l'Arthur Rimbaud 200%
oui, oui, oui.
Là.
Complètement, oui.
Bon, bah merci, puis au plaisir de vous retrouver pour une aventure lointaine à Châlons-en-Champagne.
Avec grand plaisir, oui, merci à vous.
Aurélien a quand même un lien avec l'établissement. Il vient de sortir un livre sur l'établissement, sur l'histoire des Récollets.
L'histoire des Récollets, qu'on peut retrouver sûrement à la librairie du Mot.
Voilà, c'est ça, sur mon site internet, lesvisitesdaurélien.com. Donc les Récollets, 400 ans d'histoire. Bah, c'est vraiment l'histoire de tout ce lieu, de ses origines au XVIIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Je crois que les dernières choses que j'ai mis dedans, c'est 2025.
D'accord. Une chapelle qui en plus recèle de nombreux secrets, de nombreuses pièces encore peut-être inexplorées. Tout à l'heure, on passait dans plein d'endroits des petits couloirs que Greg nous faisait visiter en imaginant que peut-être derrière les murs se cachaient encore des secrets.
Oui, il y a encore des choses à découvrir. Oui,
c'est passionnant.
S'il n'y a pas des choses qui ont été cachées à différentes époques, pourquoi pas un trésor, effectivement.
Oui. Ne dites pas ça, il va arriver demain 200 personnes avec des pioches.
Des détecteurs.
Et aujourd'hui, là, où sommes-nous ?
Alors, on est justement dans la salle des Récollets. Ça faisait une partie de la chapelle à une époque, avant qu'on fasse des travaux dans les années 60-70, justement, pour avoir une salle. Effectivement, mais on imagine que la chapelle allait jusqu'ici.
D'accord. Donc la chapelle est dans mon dos, là.
Elle est voilà, c'est ça. Elle a été inversée à l'époque.
Ouais.
Pas dans le sens qu'on a aujourd'hui, justement.
D'accord.
On a tout inversé pour avoir ces travaux, justement. Et c'est une vieille pièce d'histoire, parce que la chapelle, on en pose la première pierre en 1619.
En deux petits mots, peux-tu nous rappeler toutes les personnalités qui sont venues dans cet établissement ?
Oui, alors dans les premiers, alors dans les superstars, je dirais Claude François, pas le chanteur, encore une fois, c'est frère Luc, le peintre, qui était peintre royal, qui est parti avec Jean Talon en Nouvelle-France, un peintre de génie. On a eu le frère Rapine, qui a été un des premiers historiens de Châlons, qui va se documenter, qui va écrire pas mal de choses. On va avoir dans les têtes couronnées, on va avoir justement donc Marie-Antoinette, qui a 14 ans, elle passe à la porte Sainte-Croix, la porte Dauphine à l'époque, elle dîne à l'intendance, elle a écouté une messe dans la chapelle, justement ici, avant de repartir vers Reims et Versailles. Louis XV, avant elle, y est venu avec la reine Marie. On va voir aussi Marie-Thérèse, la fille de Marie-Antoinette. Walt Disney, le grand Walt Disney, il est passé par ici, effectivement, fin de Première Guerre mondiale, en tant qu'ambulancier volontaire à la Croix-Rouge américaine. Et c'est complètement fou.
Et puis il y a nous.
Et il y a voilà. Nous, aujourd'hui. Dans 20 ans, tu nous diras Sophie et Greg, ici.
Ils étaient là.
Ils étaient là.
Ils étaient là.
Merci beaucoup, Aurélien.
Merci.
Merci.
Nous sommes toujours au récollet du Collège Notre-Dame, toujours dans le cadre de la semaine de la poésie avec des collégiens. Et là, on reçoit ton prénom, c'est
Inem.
Inem, salut Inem. Et quelle poésie tu as
L'automne de Victor Hugo.
Et toi, Greg, Victor Hugo, ça te parle?
Ça me parle.
C'est qui ton auteur préféré?
Prévert.
D'accord, Jacques Prévert. Bon, écoute, on t'écoute, hein, Inem.
L'aube est moins claire, l'air est moins chaud, le ciel moins pur, les longs jours sont passés, les mois charmants finissent. Hélas, voici déjà les arbres qui jaunissent, l'automne est triste avec sa bisse et son brouillard. Et l'été qui s'enfuit est un ami qui part, Victor Hugo.
Merci beaucoup.
Pourquoi tu as choisi ce poème?
Je ne sais pas, je l'ai trouvé sur internet et j'ai trouvé qu'il était bien.
Donc mais tu connaissais Victor Hugo?
Oui.
Merci.
De rien.
Jacob?
Alors, tous les extraits, toutes les récitations, tous les poèmes qui ont été faits pendant cette émission se retrouveront sur podcast, sur le site de Radio Mono, sûrement en 3 émissions, on verra d'ici là, et tout le monde aura eu son poème lu, composé parfois. Certains ont même composé leur poème. Et bonjour, jeune homme.
Bonjour.
Ton prénom?
Jacob.
Jacob. Jacob, quel est le poème que tu as choisi?
Monsieur les petits oiseaux.
Monsieur les petits oiseaux, de qui?
De Victor Hugo.
Ok, voilà, encore un que je connais pas, c'est bien ce que je découvre. Eh ben, on t'écoute.
Monsieur les petits oiseaux.
Non. Attends, on va baisser. Ouais.
Vas-y.
Monsieur les petits oiseaux, on vide ici les assiettes. Venez donc manger les miettes, les chats n'auront que les os. Monsieur les petits oiseaux sont priés de vider les écueils. Et mesdames les souris voudront bien rester chez elles. C'est le temps des grands dos, le pain est dans le mangeoir. Venez donc manger et boire, monsieur les petits oiseaux.
Court mais efficace. Bravo. Merci beaucoup.
De rien.
Il faut enlever le casque.
Vas-y, remets ton petit casque. Oui. Merci.
Bien devant le micro. Ok. Ton prénom?
Gabriel.
Gabriel. Alors Gabriel, quel est le titre de la poésie?
C'est À l'Arc de Triomphe de Victor Hugo.
D'accord. Eh bien, on t'écoute. Il faudra bien rester devant le micro, par contre.
Okay. Oh, Paris et sa cité mère.
C'est trop loin. Trop loin.
Approche-toi.
Vas-y, recommence. Oh, Paris.
Oh, Paris et la cité mère. Paris est le lieu solennel, où le tourbillon éphémère tourne en centre éternel. Paris, feu sombre ou pure étoile, morne Isis couvert d'une voile, araignée à l'immense toile où se prennent les nations fontaines d'urnes obsédées, mamelles sans cesse inondées, où, pour se nourrir de l'idée, viennent les générations. Quand Paris se met à l'ouvrage, dans sa force aux mille clameurs, à tout peuple heureux, brave, sage, ils prennent ses lois, ses dieux, ses mœurs, dans la fournaise, pêle-mêle, ils fondent, transforment et renouvellent. Cette science universelle qui emprunte à tous les humains, puis ils rejettent au peuple blême leur spectre, et leurs diamèmes, leurs préjugés et leurs systèmes, tout tordus par des fortes mains. Paris qui gagne sans y croire, les fassos et les anses noires, tous les matins reste une gloire, éteint au soleil tous les soirs, avec l'idée, avec la glaive, avec la chose, avec le rêve, et refait, recloue et relève l'échelle de la terre aux cieux. Frère et méfie et des Roms, il bâtit au siècle où nous sommes une Babel pour tous les hommes, un panthéon pour tous les dieux. Ville qu'un orange enveloppe, c'est hélas, qui, nuit et jour, révèle le grand Europe avec sa charlotte et son tambour, sans cesse, qui veille ou qu'il dorme. Il entend la cité difforme, bourbonne sur sa tête, énorme comme un essai dans la forêt. Toujours, Paris, il gronde, nul, ne sait, question profonde. Ce qui perdrait le bruit du monde, le jour où Paris se tairait.
Ode à la capitale, pas facile à dire, hein, pas facile à réciter. Tu t'en es bien sorti. J'imagine que ça vient du carnet de Jules Verne, du carnet du Rhin. Non, tu sais pas.
Je sais pas.
D'accord. Bon, bah, merci beaucoup.
De rien.
On va refaire un petit tour au côté enseignant. Dans les matières de français de cours, vous enseignez les poèmes à quelle période à peu près?
Ah ben oui, moi, la poésie, ça fait partie du genre qu'on doit enseigner. On n'est pas obligé de l'enseigner à un moment plus qu'à un autre. On peut faire de la poésie parmi d'autres textes,
oui,
du moment qu'on est dans un thème un peu en commun. Bon, après, ça dépend aussi des années, hein, c'est clair. Hein, mais en général, on consacre une bonne partie de la littérature, enfin une partie, on va dire un quart à peu près, à la poésie.
La poésie, oui.
Et bon, c'est vrai aussi qu'on n'en fait peut-être pas assez, finalement, et que donc on est bien content d'être ici pour pouvoir faire revivre un peu la poésie. Pour moi, c'est vraiment important ce que vous faites, là, parce que personnellement, je pense qu'on manque de poésie de plus en plus partout, en politique, dans l'économie, dans notre monde actuel, même dans les relations humaines, dans les discussions qu'on peut avoir entre nous. La poésie, c'est la liberté, c'est l'amour des mots des autres. Et on a abordé des super thèmes, j'ai entendu pendant midi. Tu voulais contre la guerre, pour l'amitié, pour l'amour, des enfants qui ont pleuré en repensant à des choses personnelles. Rentrer un peu dans l'intime avec de la poésie, ça fait beaucoup de bien. Donc merci.
Aujourd'hui, beaucoup de poèmes sur la guerre et sur la paix. On est en pleine actualité en ce moment avec ce qui s'est passé depuis une semaine. Donc merci à vous d'intervenir et en faisant passer des mots sensibles qui touchent.
Il y a des auteurs dont les collégiens favorisent plus les textes que d'autres.
Finalement, on a du mal à ressortir un peu des mêmes, de ceux qu'ils ont aussi déjà vu en primaire. Quand on leur pose la question de ce qu'ils connaissent, on sait souvent Maurice Carême qui revient. Ils aiment bien aussi...
Il y a du Chédid qui est beaucoup sorti aussi aujourd'hui, Victor Hugo.
Alors Victor Hugo, beaucoup. Alors, ça, peut-être que je les ai un peu influencés, je ne sais pas. J'ai vu énormément de Victor Hugo, oui. Et puis...
J'ai un peu étonné, c'est la deuxième édition d'ailleurs de la Semaine de la Poésie, on n'entend plus de Colette.
Ah.
Pourtant, c'était des textes assez faciles, assez ludiques.
Et pourtant, je sais qu'ils sont faits aussi en quatrième, on a des profs aussi qui font des textes de Colette, oui. Donc, ils ne sont pas présents aujourd'hui. Mais...
Et puis, on a eu évidemment Paul Éluard, la poésie.
Paul Éluard aussi, oui. Et là, j'ai un trou de mémoire là, sur celui qui était scénariste aussi après la Seconde Guerre mondiale.
Alors, c'est du contemporain.
Bon, tant pis, si ça me revient.
Et ben, on va continuer avec une jeune fille. Mais pour montrer que la lecture, le texte est important au Collège Notre-Dame, on aura notamment l'interview sur RCF et sur Radio Mono. En direct du Collège Notre-Dame et en direct de New York, on rencontrera Marc Lévy, ou des élèves du Collège rencontrera Marc Lévy. Marc Lévy, on se rappelle, c'est que 25 romans publiés, traduits en 50 langues, plus de 50 000 d'exemplaires. Et donc, on sera en direct d'ici un mois du Collège Notre-Dame avec Marc Lévy pour montrer l'importance de la lecture et des mots.
Et des millions d'ouvrages vendus.
C'est ça, oui, des millions.
Et à Jacques Prévert, hein, le petit hommage.
Jacques Prévert. Ouais,
Jacques Prévert, bien sûr. Aussi, là, il a vraiment touché tout le monde depuis plusieurs
années. On a eu Jacques Prévert, là, on a eu les feuilles mortes. Eh bien, bonjour, jeune fille.
Bonjour.
Ton prénom?
Lilou.
Lilou. On se connaît, non? Hein? Non?
Oui.
C'est en club radio?
Non, mais pour. C'était pour le.
Semaine de la presse?
Ouais, je.
Ok.
Tu as choisi un poème aujourd'hui?
Oui.
Quel poème?
Rêver.
De qui?
Il est anonyme.
Ah, ok. C'est bien aussi. On t'écoute.
Rêver. Rêver, c'est oublier la réalité, en se donnant un moment de liberté. Rêver, c'est dire non à l'impossible, mais aussi atteindre ce qui est inaccessible. Rêver, c'est s'inventer des roses quand dans la vie il n'y a pas grand-chose. Rêver, c'est se promener dans son jardin secret aussi sereinement qu'un ruisselet. Rêver, c'est se créer un monde à soi illuminé par un soleil de joie. Rêver, c'est toucher la beauté, mais aussi émouvoir sa sensibilité. Rêver, c'est broder un poème avec la soie d'un je t'aime sur le ciel de son cœur pour le donner à toutes les douleurs. Rêver, c'est savoir se mentir et transfigurer la souffrance en plaisir. Rêver, c'est pénétrer dans un autre univers où l'on ne voit ni la tristesse ni l'enfer.
Très beau. Pourquoi avoir choisi ce poème qui n'a pas d'auteur, mais qui est très beau?
En le lisant plusieurs fois, je l'ai aimé parce qu'en fait, ça raconte qu'on a chacun un monde à soi et j'aime bien...
L'imaginaire.
Merci, merci Lilou. On va vous laisser le mot de la fin pour clôturer cette émission.
D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que vous remettiez un peu de poésie dans la vie moderne, ça me touche beaucoup. Les élèves ont bien participé, peut-être plus que ce que j'aurais pris, sans les forcer d'ailleurs, ils sont venus d'eux-mêmes. Et donc ça, nous comme enseignants, moi comme enseignant de français, vraiment ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'en fait les élèves sont toujours attirés par la poésie. Qu'ils ont envie d'en lire, ils ont envie de ce monde personnel qu'ils peuvent développer, ils en ont besoin. Et donc, on va continuer, on va remettre peut-être la poésie un peu plus au centre des cours.
La poésie n'est pas vintage, du coup.
Non. Grâce à vous, merci beaucoup.
Merci à vous tous, surtout. Merci Greg.
Merci. Et on se retrouve l'an prochain pour la troisième édition.
Avec la poésie.
Avec la poésie. Sinon, on se retrouve sur la foire exposition, en direct également avec nos élèves du collège Notre-Dame.